Bonjour, frères et sœurs. Vous savez, je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Je suis heureux de me trouver parmi vous pour vous annoncer un message de la part du Seigneur. Si vous voulez, je souhaiterais qu'on prie avant. Seigneur, nous sommes devant ta parole et te demandons que tu ouvres maintenant nos cœurs par ton esprit à pouvoir la recevoir. Qu'elle puisse, Seigneur, nous nourrir, qu'elle puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nous apprendre davantage sur toi, ce que tu veux pour nous, ce que tu veux de nous. Et ouvre nos cœurs à ton esprit. Aide-moi aussi à m'exprimer par ton esprit. Quelquefois, les mots me viennent difficilement, mais je te demande aussi ton aide pour apporter ce message à mes frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. L'avons loué ce matin avec des beaux mots. Et on peut aussi vraiment le louer parce qu'il nous a laissé ces deux testaments, la parole de Dieu. Nous avons l'avantage de ces temps-ci d'avoir les deux testaments dans notre langue et même dans plusieurs versions. Je crois qu'il existe une douzaine, je crois, de versions différentes. Et c'est très, très, très enrichissant. Et quelquefois, on se demande pourquoi nous avons ces deux testaments, parce qu'ils sont quelque part complémentaires. Comme c'est beau de pouvoir lire l'Ancien Testament avec les lunettes du Nouveau Testament, avec l'éclairage du Nouveau Testament, avec les enseignements du Seigneur, avec les enseignements des apôtres, et de pouvoir, comme ça, unir cette parole Ancien et Nouveau Testament en étant vraiment la parole de Dieu qui nous touche à nous. Parce que, en réalité, l'Ancien Testament était destiné au peuple juif, puisqu'on parle de l'histoire du peuple juif, principalement dans l'Ancien Testament. Mais grâce au Nouveau Testament, nous avons la possibilité de le comprendre et aussi de voir quelles sont les applications, non pas pour le peuple juif, mais peut-être pour nous ce matin. Et j'aimerais ouvrir ce matin la parole de Dieu dans le Cantique des Cantiques. Le livre du Cantique des Cantiques relate une merveilleuse histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme. La jeune femme est souvent appelée la Sulamite et son fiancé est un berger. Et ce livre fait l'éloge de sentiments purs, vrais, profonds, fidèles, solides entre un homme et une femme qui s'aiment profondément. On y découvre des dialogues entre un couple éperdument amoureux et avide de découvrir l'un l'autre, de se connaître, de s'apprécier, pour résumer, pour s'aimer. Et nous allons lire, si vous voulez bien, dans le chapitre 5 du Cantique des Cantiques, les deux longs premiers versets. C'est d'abord le berger qui parle. Et il dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Et la Sulamite répond, mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Et elle continue au verset 2. J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, dit le berger, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. Et on pourrait continuer dans ce beau poème, dans cet échange entre la fiancée et son fiancé qui se donnent, qui se disent des mots d'amour. Si on lut ça avec les lunettes du Nouveau Testament, Et si on l'applique spirituellement à nous, on peut s'en inspirer en la comparant avec la relation entre l'Église, son épouse, et Jésus, l'époux bien-aimé. Et dans le verset 1, je m'arrêterai que dans la première phrase, on parle d'un jardin. Et je voudrais avec vous partager quelques idées sur ce jardin. Il est question d'un jardin où le berger aime se retrouver avec sa fiancée dans un cadre quelque part merveilleux, entouré de belles fleurs, d'une nature magnifique. On imagine un beau jardin en plein été, les chants des oiseaux, les odeurs printanières de la nature, la fraîcheur à l'ombre des grands arbres, une herbe bien coupée dans laquelle on peut s'asseoir pour partager une boisson fraîche, un café avec un morceau de tarte au riz. On dit que la tarte au riz, c'est la spécialité de la région, c'est vrai ça? Voilà. Peut-être on m'a dit à Verviers aussi, je ne sais pas s'il y a une concurrence. Voilà, un endroit vraiment où, je dirais, le bonheur à l'état. C'est un peu ce jardin qui est décrit dans la suite aussi des versets. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et quelque part, bien aimé, le cœur du croyant est le jardin du Seigneur. Notre cœur est le jardin du Christ. Et au verset 1, il dit « J'entre dans mon jardin. » J'entre dans mon jardin. Il y entre et le déclare comme étant sa propriété. Il se l'est acquis à un cher prix, son sang précieux. Dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 18, il est dit que « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Le Seigneur a racheté notre cœur. C'est son jardin. Il en est le propriétaire. Un jardin, c'est un lieu de beauté. Rien à voir avec des étendues sauvages laissées à l'abandon. Le cœur du chrétien, le jardin du Seigneur, devrait produire les plus belles fleurs du monde entier, les plantes les plus extraordinaires, les fruits les plus succulents. Dans le Cantique des Cantiques, je reprends un autre verset, au chapitre 4, verset 12, où le berger dit à la Sulamite, « Tu es un jardin privé. Ma chérie, ma fontaine fermée, une source réservée. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du henné et du nard, nard et safran, roseaux aromatiques et cinnamome, toutes sortes d'arbres à encens, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. » Cantique 4, versets 12 et 13 et 14. Je lis maintenant le Nouveau Testament. Galates chapitre 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, vous connaissez ce passage, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Que de beaux fruits. Spurgeon, l'évangéliste, disait cette phrase, le vrai chrétien doit chercher à ce que sa vie excelle celle du meilleur moraliste. Je répète cette phrase pour que le chrétien Le vrai chrétien doit chercher à ce que sa vie excelle celle du meilleur moraliste. C'est-à-dire que des moralistes, on en trouve partout. Mais qu'en est-il de leur vie? Notre vie, nos fruits de nos vies doivent être meilleurs que n'importe quelle personne qui nous font une leçon de morale. Un jardin est aussi doté d'une clôture, d'une haie, d'un mur, d'une séparation. Un jardin, ce n'est pas une prairie ouverte ou un pâturage commun à plusieurs agriculteurs. Ce n'est pas non plus un désert sans limite, un terrain vague où le monde peut venir déposer ses ordures. Non. Un jardin est un endroit privé, réservé à son propriétaire. Comment est la clôture de notre jardin? Quelle est la qualité du mur de séparation avec le monde qui nous entoure? Le mur de séparation est-il écroulé à certains endroits? Je prends un autre texte dans les Proverbes, au chapitre 24 et au verset 30. Écoutez ce que dit l'auteur de ce proverbe. Il dit « Je suis passé près d'un champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol et son mur de pierre était écroulé. » Son mur de pierre était écroulé. J'ai regardé bien attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Tu veux somnoler un peu, te reposer un peu, juste croiser un peu les mains pour dormir? Et voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme en armes. Celui qui a écrit ça est passé près d'une vigne d'un paresseux. La vie chrétienne, mes bien-aimés, n'est pas une vie de paresse. Notre jardin, nous devons le cultiver, nous devons le protéger. Nous devons entretenir la haie, la clôture. Parce que si ce mur de séparation est écroulé, comme c'était le cas dans cette lecture, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très vite, les épines y poussent partout. Les ronces couvrent le sol. Parce que son mur de pierre est écroulé. Quelquefois, il est triste d'entendre certains chrétiens qui disent « Oh, bah, c'est pas si grave, ça. Bah, il n'y a pas de mal à ceci ou cela. » Et on banalise quelquefois le mal, ou ce que la Bible appelle le péché, à cause peut-être de petits péchés, entre guillemets, qui n'ont pas vraiment leur importance dans notre vie. Et c'est là que le mur de séparation commence à se brécher et facilement, très vite, les ronces viennent envahir notre jardin. Un beau jardin est exempt de ronces, de mauvaises herbes. Veillons, mes bien-aimés, à ce que les ronces, les fleurs flétries, les mauvaises herbes soient immédiatement ôtées de ce lieu où notre Seigneur bien-aimé aime venir se promener. Dans le premier épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 9, il y a là un verset que j'utilise moi-même journellement et que j'applique, où l'apôtre Jean nous dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Saint-Esprit nous montre une ronce, une mauvaise herbe, dans notre beau jardin. Il suffit de le dire au Seigneur, de la montrer au Seigneur, de l'arracher avec l'aide du Seigneur, et le Seigneur nous dit que, miracle de sa grâce, il nous pardonne et il nous purifie de tout péché. Donc ce jardin, il doit être entretenu. Nous devons y veiller parce que le Seigneur aime s'y promener. Un jardin est aussi un lieu de croissance. Le cœur du chrétien doit grandir en sagesse, en pureté, en sainteté. Un jardin n'est pas composé de fleurs en boutons ou des arbres qui sont en bourgeons. Nous devons croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je prends encore un verset du Nouveau Testament dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au début du chapitre, où l'apôtre s'adresse aux Thessaloniciens dans ces mots, il dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est cela que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Il continue, vous savez en effet, « Quelles instructions nous avons reçues de la part du Seigneur Jésus ? Ce que Dieu veut, c'est notre progression dans la sainteté. » C'est ce que nous, vous, pardon, je continue la lecture, c'est ce que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et dans la dignité, sans se livrer à la passion du désir comme des membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette les instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Notre jardin, le jardin de notre cœur, mes bien-aimés, là où le Seigneur aime se promener, il doit croître. Les fleurs doivent pousser. Les arbres doivent produire du fruit. Et la croissance ne devrait donc pas être, ne devrait-elle pas être rapide là où Jésus est le jardinier et où le Saint-Esprit est la rosée céleste? En parlant d'arrosage, un jardin est un lieu qui doit être arrosé. Premièrement, l'eau. Vous savez, l'eau, tout au long de l'histoire de l'humanité et dans toutes les régions de notre terre, les hommes ont toujours eu le souci de trouver de l'eau pour étancher leur soif, pour se rafraîchir, pour arroser. Des aqueducs, des canaux d'irrigation, des puits, des recherches de sources, tout cela pour trouver de l'eau, car sans eau, la vie n'est pas possible. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur répondit à une dame, dans le chapitre 4, verset 13, en disant « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. » Il était au bord d'un puits, vous connaissez ce passage. « En revanche, dit le Seigneur, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Éphésiens chapitre 5, verset 25. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, je dirais ce jardin magnifique, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Lisons-nous encore la Bible? C'est quelquefois la question que je pose à mes frères et sœurs à Carnières, cette assemblée d'où je viens. Est-ce qu'on lit encore la Bible? Est-ce qu'on arrose encore notre jardin? Autre chose nécessaire dans un jardin, c'est l'arroser. Et l'arroser en particulier du Saint-Esprit. L'arroser est l'humidité de l'air qui se condense sur les plantes, les fleurs et les fruits d'un jardin. Et la Bible utilise souvent le mot rosé au sens figuré pour désigner tout ce qui, sans bruit et même sans façon, et même de façon invisible, apporte rafraîchissement et bénédiction. J'ai trouvé un beau verset dans Ésaïe, au chapitre 58, verset 11, qui dit ceci. Écoutez. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans des endroits arides et il te redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Combien est importante cette eau? Vous savez que le mot eau est, on trouve environ 600 fois dans la parole de Dieu. L'eau est indispensable. Et la parole de Dieu, sa lecture, sa méditation, son étude est indispensable, mes bien-aimés, pour garder un jardin digne où le Seigneur aime venir s'y promener. Dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que un jardin est un lieu de retraite. Un endroit où on aime se retirer à l'écart. Ne dit-on pas quelquefois cette expression « jardin secret » car c'est là, dans le lieu secret, que le Seigneur désire se promener en notre compagnie. C'est là que le dialogue peut s'installer avec lui. C'est là que, comme Marie, nous pouvons nous asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter, nous enseigner, dans ce jardin à part, dans cette retraite. C'est là que le Seigneur nous attend et qu'il voit dans notre cœur. Vous connaissez Matthieu 6:6, où il nous est dit que le Seigneur nous attend dans un lieu secret. Et il nous demande de fermer la porte pour que nous soyons coupés un peu de tous les bruits extérieurs. Et il n'est pas dit qu'il nous entend. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est dit dans ce texte qu'il nous voit. Il nous voit là dans ce lieu secret. Et ce qu'il voit en réalité, c'est le fond de notre cœur. Car le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et c'est dans ce jardin de notre cœur que le Seigneur nous attend pour cette communion avec lui. Dans ce lieu de retraite. Je prends encore un verset dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6, et au verset 3. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour prendre soin de son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Verset 3. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Un autre verset dans le Cantique, au chapitre 7, verset 6. Verset 7 pour certains, parce qu'il y a un petit décalage dans certaines traductions. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Verset 13 du même chapitre. Là, je te donnerai mon amour. Vous sentez combien le Seigneur désire développer cette intimité avec nous, dans notre jardin, dans notre cœur. Pour ça, le Seigneur nous propose de réfléchir, de faire une introspection, de faire un état de notre cœur, de notre jardin, chacun. Je ne vais donner de leçons à personne, le bien-aimé. Je vais donner de leçons à personne. Les ronces poussent facilement aussi dans mon cœur. Mais voilà, le Seigneur aimerait tellement que mon cœur soit digne de lui, avec ses fruits, avec ses belles fleurs, ses belles plantes, ses belles pelouses, un endroit bien isolé, bien protégé, où il peut cultiver une relation avec moi. Le Seigneur touche nos cœurs et nous puissions continuer à méditer sur cette pensée que le Seigneur désire voir un jardin magnifique dans le cœur de notre vie. Amen.